Extrait du journal de bord du Quo Vadis. Capitaine Joseph Kellan. Année terrestre 2819. Archives numériques consultées pour la dernière fois en l'an 2830 pour impression et conservées sur papier en plusieurs exemplaires dans la bibliothèque du Quo Vadis. Mon projet de constitution touche à sa fin. Pourrons-nous jamais le mettre en place dans un autre environnement que le Quo Vadis? L'avenir le dira. J'approche de 70 ans et l'avenir se rétrécit devant moi, mais mon énergie, elle, reste intacte. J'ai proposé à l'équipage de se constituer en groupe d'une ou deux centaines de personnes, soudées autour d'une personne que je n'ai pas envie d'appeler un chef, car son rôle principal ne serait pas de commander, mais de créer du lien entre tous les membres de sa communauté. Les liaisons télépathiques entre cette personne, qui serait en quelque sorte la clé de voûte de la communauté, et tous les autres membres, seraient renforcées et rendues visibles par des tatouages rituels. Les chefs de chaque communauté, il y en aurait une centaine environ, seraient à même de m'aider dans ma prise de décision, en faisant valoir les besoins et les aspirations essentielles au bien-être de leur groupe. À ce journal, je peux bien confier que mon rêve aurait été de me lier avec tous les membres de l'équipage, afin de connaître chacun par ses joies et ses douleurs. Mais j'ai réfléchi. Le cerveau humain n'est pas capable de se représenter mentalement les nombres à partir d'une certaine quantité. Le cœur humain n'est pas capable non plus d'aimer et de connaître les hommes à partir d'un certain nombre. Aucun chef ne doit avoir à répondre de plus de quelques centaines de gens. Au-delà, le chef ne manie plus des hommes, mais des chiffres, et tout le mal vient de là. Chapitre 8. Terra Incognita. Année terrestre, 3416. La mission était, sur le papier, des plus simples. Après avoir rejoint l'annexe, ils en avaient détaché le véhicule aéroterrestre et s'étaient embarqués pour une exploration systématique. Le véhicule montait à une grande altitude, ce qui permettait de franchir de grandes distances en peu de temps. Les points de ponction avaient été déterminés à l'avance et il suffisait d'appliquer méthodiquement la procédure, faire descendre le véhicule à la surface, sortir les robots analystes et prélever des échantillons de toutes sortes avant de remonter et de recommencer. L'air, la terre, les matières organiques, l'eau étaient consciencieusement entubés et étiquetés. Les senseurs des robots mesuraient tout ce qu'il était possible de mesurer, depuis le champ magnétique jusqu'au niveau de radiation, en passant par la force de gravitation. Une échographie terrestre très poussée était menée à bien, avec un logiciel qui extrapolait les résultats manquants à partir des résultats saisis. Tout cela était, au niveau scientifique, parfaitement sous contrôle, et il y avait en fait fort peu de différence entre ce travail et le travail effectué par les robots radiocommandés sur les planètes habituelles. Le fait de pouvoir déplacer et actionner les robots manuellement faisait juste gagner un temps précieux. Le major Rodriguez était chargé de l'itinéraire et de définir les points de ponction. Il passait beaucoup de temps à étudier les images prises en orbite, ainsi que les cartes multimédia que Michel Touré créait au fur et à mesure, à partir des multiples données observées. Le major distribuait également les ordres, rédigeait les rapports et décidait des heures de travail et de pause. Il ne parlait pas beaucoup et semblait extrêmement concentré sur sa mission, demeurant la plupart du temps à bord du véhicule. La roboticienne Isla Brown, assistée de Damien Azouri, accompagnait son petit troupeau de robots qui, en dehors de leur environnement de carbone et de titane, dont l'humidité était sans cesse contrôlée, avait tendance à réclamer des soins réguliers. Fabriqué pour résister au vide spatial, à l'absence de pression, à des températures extrêmes, ils étaient finalement assez peu préparés à patauger dans la boue ou résister aux colonnes de fourmis. Mais ce n'étaient pas ces problèmes techniques qui agitaient le major Rodriguez. Ainsi que le lui avait dit le capitaine Richards, les problèmes techniques n'étaient pas grand-chose à gérer par rapport aux problèmes humains. Lors de son entretien particulier avec le capitaine, celui-ci avait fortement insisté sur les possibles effets psychologiques et même psychotropes de la planète sur l'équipage. Ses conseils avaient été clairs, rester autant que possible à l'intérieur du véhicule, y dormir, y prendre les repas, limiter au maximum les sorties, ne jamais laisser un membre de l'équipage sortir seul, réduire au maximum le temps de présence continue sur l'organe, quitte à faire une seconde mission plus tard. Au moindre signe de défaillance psychologique, au moindre écart de conduite, au moindre symptôme, le capitaine Richards voulait que tout le monde remonte. Depuis l'incartade, plus ou moins incontrôlée de l'ingénieur Ido, le capitaine en faisait un véritable point d'honneur et Rodriguez tremblait à l'idée que l'un de ses coéquipiers pût avoir un tel coup de folie. Michel, coincé la plupart du temps avec le major, fournissait un travail de grande qualité sur la carte. Mais Rodriguez la sentait volatile, prête à lui échapper à la moindre occasion. Involontairement, ses yeux se portaient sans cesse sur l'extérieur, qu'elle ne pouvait voir qu'à travers les vitres un peu sales du véhicule. Parfois, elle lui adressait un regard presque suppliant, mais, Dieu merci, muet. La discipline militaire lui avait appris à ne pas parler de tout ce qui lui passait par la tête. Elle sublimait son intense désir de se promener sur l'organe par un souci cartographique méthodique. Mais Rodriguez se demandait combien de temps cette maîtrise de soi pouvait tenir, combien de jours le volcan, sous sa pression interne, resterait calme avant d'exploser. Michel était infiniment respectueuse et n'outrepassait jamais un ordre, mais il suffisait qu'il existe la moindre faille, le moindre interstice, le moindre espace de non-droit, et elle s'y engouffrait. Tant que le major n'eut pas explicitement précisé qu'il lui était interdit de descendre à terre pour aider Isla Brown et Damian Azouri à remonter les robots, elle sauta à terre pour les accueillir et vola ses quelques instants de liberté, avidement, comme une affamée. Tant que le major n'exigea pas que l'équipage utilise exclusivement les toilettes sommaires du véhicule, elle profita, 3 ou 4 fois par jour, de ce prétexte pour s'éloigner hors de leur vue. Elle n'abusait jamais de la confiance du major. Elle revenait toujours sans qu'on eût besoin de l'appeler. Mais il ne serait tranquille que lorsqu'elle serait remontée à bord de la sonde et qu'elle ne serait plus sous sa responsabilité. Fort heureusement, ce n'était pas elle qui était assistante analyste. Brown et Azouri ne l'inquiétaient pas particulièrement, mais ils avaient objectivement la possibilité de s'enfuir à tout moment. Rodriguez se demandait souvent ce qu'il faudrait faire s'il ne revenait pas au véhicule. En général, il était pris à cette pensée de palpitation et s'efforçait de passer à autre chose. Le soir, la cohabitation était très pénible dans le véhicule. Même s'ils étaient habitués aux espaces clos et exigus des vaisseaux, le sommeil était difficile à trouver. Rodriguez avait imposé de manger à l'intérieur le premier soir, mais il avait cédé le lendemain et autorisé un pique-nique aux abords du véhicule pendant 30 minutes. L'organe, si luxuriant et invitant sous la lumière, devenait une masse indistincte de ténèbres à la nuit. Nulle part il n'avait connu une telle obscurité. Dans l'espace, 2 choses rayonnaient sans cesse, le vaisseau sur lequel on se trouvait nécessairement et qui n'était même en veille jamais complètement obscur, et bien sûr, l'espace lui-même, cette obscure clarté qui tombe des étoiles. C'était aujourd'hui le 4e et dernier soir. Le major avait décidé de mettre un terme à cette première mission. Tout s'était bien passé jusqu'à présent, ils avaient collecté un grand nombre de données, peut-être suffisant, et il lui semblait qu'il ne fallait pas tenter le diable. Michel était devenue mélancolique depuis 24 heures. Elle ne posait plus ses questions incessantes à Isla et Damian, des questions tous azimuts qui avaient fatigué tout le monde pendant les 3 premiers jours. Cet abattement soudain paraissait à Rodriguez de mauvais augure. Il eut énormément de mal à s'endormir et ne trouva le sommeil qu'à l'aube, après avoir constaté de ses yeux que ses 3 coéquipiers dormaient. Il se réveilla 3 ou 4 heures plus tard, à cause de la douleur lombaire que lui infligeait la position assise, et mit assez longtemps à ouvrir les yeux. La lumière le gênait, peut-être encore plus que les ténèbres, et il avait hâte de se retrouver dans les lueurs crépusculaires qui lui étaient familières. Il n'entendait pas de voix, les autres dormaient sans doute encore. L'inquiétude lui ouvrit enfin les paupières, et il eut un pincement au cœur suivi de palpitations lorsqu'il s'aperçut que Michel n'était plus à côté de lui. Isla et Damian dormaient à l'arrière et il les éveilla sans ménagement. Mais Michel avait laissé un siège vide et déjà froid. Elle avait réussi à s'échapper sans faire de bruit, par quel miracle. Il fallait qu'il soit vraiment épuisé après 4 nuits d'insomnie. Sans tarder, Rodriguez envoya un rapport au capitaine Richards et commanda à Brown et à Zuri de se préparer immédiatement pour partir à la recherche de Touré. Il ne se sentait pas vraiment paniqué par cet événement. Il le sentait venir depuis 4 jours et le considérait plutôt comme une sorte de fatalité qui avait fini par se frayer un chemin dans la réalité. Michel avait lutté, comme il arrive à des amants de lutter pendant un temps contre un désir interdit. Mais le désir est une vague puissante contre laquelle les digues ne tiennent pas. Ce qu'elle avait du mal à comprendre, c'était l'attitude de Rodriguez, et plus encore celle d'Isla et de Damian. Ils agissaient exactement comme si la hiérarchie, les ordres de mission, les intérêts de la sonde avaient encore un sens. Ils agissaient comme si ce rêve éveillé dans lequel ils avaient survécu toute leur existence était vraiment la réalité. Ils agissaient comme s'ils ne s'étaient pas aperçus que leur réalité venait de voler en éclats. Personne n'avait compris pourquoi elle avait sangloté en touchant le sol de l'organe. On avait mis cela sur le compte de sa sensibilité à fleur de peau. C'était plus facile. Choc émotionnel dû au contact avec une biosphère. Cela avait quelque chose de prévisible et de rassurant. Mais ces mots ne reflétaient pas ce qui s'était passé, ce qui s'était brisé, ce qui avait lâché tout au fond d'elle. Toutes les larmes sont des larmes de deuil. Michel avait pleuré parce qu'elle avait compris dans une fulguration qu'il n'y aurait pas de retour en arrière, qu'il y avait un avant et un après. Certains instants possèdent cette radicalité. Ils possèdent une caractéristique spéciale qui les transforme en lignes de fracture. Ils redéterminent le sens de tous les instants passés et à venir en projetant sur eux une lumière entièrement nouvelle. C'est ce que la littérature essaie d'exprimer à travers les coups de foudre. C'est ce que chacun ressent confusément à la mort brutale d'un proche. Et pour Michel, toucher le sol de l'organe avait été l'un de ces instants spéciaux. Se rendre compte que le monde continue à tourner normalement est toujours la première surprise éprouvée après le choc de cette épiphanie. L'invisibilité du cataclysme, son absence d'effectivité chez les autres, est un mystère angoissant. On se sent absolument seul, coupé du monde, retranché dans cette impression bouleversante comme dans un délire. Et le plus souvent, on continue à effectuer les gestes de l'habitude, dans un état de dissociation psychique proche de la schizophrénie. C'est ce qu'avait traversé Michel pendant ces 4 jours, enfermé dans ce véhicule poussiéreux, avec le major qui parlait à peine, penché sur ses cartes, essayant de se concentrer sur son travail pour oublier pendant quelques minutes d'affilée l'énormité de ce qui lui arrivait. C'était pendant les nuits surtout qu'elle avait eu le loisir de réfléchir. L'excitation la tenait éveillée et parfaitement lucide. Il lui semblait qu'elle n'aurait plus jamais besoin de dormir, que son long sommeil venait de prendre fin et que ses yeux seraient maintenant toujours ouverts. Elle avait essayé de mettre des mots sur tout cela. Ce qui lui arrivait, c'était la prise de conscience claire et irréversible que l'existence qu'elle avait menée dans la sonde et les autres vaisseaux de l'Union n'était qu'un simulacre pitoyable de la vie. Ils étaient tous enfermés dans la caverne de Platon, prenant les ombres pour le réel. Son contact avec le soleil avait été définitif. Certaines personnes voulaient rester dans la caverne, mais celles qui en étaient sorties, ne serait-ce qu'une fois, n'y revenaient pas. Elle aurait aimé en parler avec le major Strauss. De tous, il était probablement le seul qui pût la comprendre. Elle se demandait s'il avait eu la même prise de conscience. À la lumière de cette vérité, toutes les cartes étaient redistribuées. Ce qui avait été important ne l'était plus. Ce qui avait eu du sens n'en avait plus. Le risque de mourir, par exemple, lui paraissait absolument dérisoire. Le sentiment de sa déloyauté, de sa désobéissance, l'idée que ses compagnons pussent considérer qu'elle trahissait, le concept même de désertion, lui était devenu absolument étranger. Il n'y avait rien dans tout cela qui fût en lien avec le réel, ce n'était que des fantasmagories sophistiquées et collectives qui ne s'ancraient dans rien. La planète, elle, était réelle, elle était le réel. Michelle s'était sentie connectée à elle par toutes les fibres de son corps, par tous ses nerfs, dès la première seconde. L'organe était un monde auquel on pouvait s'accrocher, dans lequel on pouvait s'implanter, s'épanouir et fructifier. La sonde, elle, n'était qu'un cercueil flottant, un vaisseau fantôme qui lui inspirait maintenant une horreur profonde. Le dernier soir, alors que le major Rodriguez avait enfin baissé la garde, elle avait réussi à laisser entr'ouverte la portière du véhicule et avait épié la respiration de ses trois coéquipiers. Lorsqu'elle se fut assurée qu'ils dormaient tous, elle avait filé. C'était aussi simple que cela. Elle s'était éloignée dans la forêt et, une fois perdue dans l'épaisse nuit organique, elle s'était allongée au sol, le cœur battant la chamade, caressant la terre de ses mains et de ses lèvres, riant et pleurant de joie. « Elle a peut-être un problème, » fit remarquer Isla Brown. « Elle s'est peut-être éloignée pour une raison quelconque et il lui peut être arrivé quelque chose. »« Que voulez-vous qu'il lui arrive, Isla ?»« Nous ne sommes pas sûrs qu'il n'y a pas d'animaux sauvages représentant un danger. »«
Nous n'avons vu que des animaux de très petite taille, » observa Azuri d'un air dubitatif.
« Mais nous sommes loin d'avoir visité l'intégralité de cette immense planète, » protesta Brown. « Il se peut très bien qu'une faune plus conséquente nous ait échappé. Il se peut aussi qu'il soit arrivé autre chose, qu'elle soit tombée dans un trou, qu'elle ait fait un malaise. »
Le major Rodriguez haussa les épaules.
« Vous pouvez discuter autant que vous voulez. Elle a déserté. » « Vous ne pouvez pas dire ça, major. Il y a la présomption d'innocence, et la désertion est passible de la cour martiale. » J'en suis parfaitement conscient, et c'est précisément à cette cour martiale que nous allons déférer Touré dès que nous aurons mis la main sur elle. » Isla Brown se tut. La détermination du major lui faisait peur. Il ne semblait aucunement paniqué, et pas même en colère, mais il avait des gestes précis et brutaux, comme quelqu'un qui se prépare au combat.
« Il y a au moins 400 kilomètres sans le moindre sentier tracé entre ici et les habitations humaines, » murmura Azuri interloqué.
400 kilomètres avec une bonne carte et une bonne condition physique, c'est faisable, » dit Rodriguez d'un air buté. « Vous pouvez regarder si elle a emporté les cartes. Je suis certain qu'elle l'a fait. »
Isla Brown regarda rapidement dans les affaires classées à l'arrière du véhicule.
« Les cartes et l'essentiel de la nourriture et de l'eau. Elle nous a laissé une seule bouteille. Ça vous étonne, Brown? Je vous le dis pourtant depuis le début. Elle a déserté, » maugréa Rodriguez l'air sombre.
La situation rendait Damien Azuri nerveux.
Mais comment va-t-on s'y prendre? Demanda-t-il d'une voix qui avait monté dans les aigus. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin.
Nous allons quadriller cette zone à pied, montra Rodriguez sur la carte, puis nous quadrillerons cette zone à basse altitude avec le véhicule.
Pendant combien de temps?
Le temps qu'il faudra, dit sèchement le major.
Isla Brown, cependant, rassura son assistant. Nous n'avons plus d'eau. Et presque plus de vivres. Notre battue ne pourra pas excéder 24 heures.
À trois, gémit Azuri.
À trois pour faire une battue sur une planète.
Ne soyez pas ridicule, Azuri, ou je ferai un rapport sur votre couardise. Préparez-vous, départ dans 10 minutes.
Michel n'avait pas envie de mourir juste après avoir trouvé le sens de la vie. Elle ne laissa donc rien au hasard. Certaine que les recherches de ses coéquipiers ne pourraient excéder une journée ou deux au maximum, elle songea qu'il lui suffisait de se cacher jusqu'à ce que le véhicule s'en aille pour de bon. Elle devait rester à couvert, car l'essentiel de leurs recherches s'effectuerait sans doute à basse altitude. Un arbre, à cet égard, paraissait idéal, mais il fallait aussi qu'elle fasse attention à la piste qu'elle ne manquerait pas d'avoir laissée en partant. On ne laisse pas de traces de son passage dans un lieu humain, sur la coursive d'un vaisseau ou même sur une route. Mais on ne peut se frayer un chemin dans la nature qu'en brisant des arbustes, en piétinant des herbes. Il existait sans doute une trace qui menait du véhicule jusqu'à l'endroit où elle s'était laissée tomber, sans compter l'aide potentielle des robots qui seraient capables de détecter des bruits et des vibrations inaudibles. Rester immobile pendant 1 ou 2 jours pour éviter sa détection par les robots. Rester à couvert pour éviter d'être repéré par le véhicule. Ne pas se trouver au bout d'une piste où il suffirait à Rodriguez de venir l'accueillir. L'équation n'était pas facile, mais il lui sembla trouver la solution au moment où le soleil se levait.
Elle allait faire une grande trace circulaire, d'une circonférence de plusieurs centaines de mètres, qui ferait perdre du temps à ses poursuivants, car ils mettraient du temps à se rendre compte qu'ils tournaient en rond. Puis, elle choisirait un arbre parmi tous ceux qui se trouvaient sur ce cercle, un point parmi une infinité. Et cet arbre, que rien ne distinguerait de tous les autres, serait le point de départ d'un deuxième parcours, un parcours plus dangereux, et forcément plus court, où elle progresserait cette fois dans la canopée. Elle avait l'habitude des acrobaties, et dans sa combinaison du matériel pour s'encorder. Dès qu'elle estimerait avoir atteint une cachette sûre, sous le couvert des arbres, au-dessus d'un sol inviolé, elle s'immobiliserait et attendrait, silencieuse et patiente, le départ du véhicule. Elle avait suffisamment de vivres pour cela, et quand le véhicule serait parti, alors seulement, elle mettrait en œuvre la seconde partie de son plan.